Dis, est-ce normal vraiment que je trouve ça navrant? Les couples ont bord de mer, moi qui les aimais tant, gamine à l'océan. Les couples ont bord de mer, eux, heureux adultes, grands enfants, main dans la main, riant. Oh, comme j'aimais ces perdus, mains insouciantes, au contraire à mes parents. Suis-je jalouse? C'est pas que je m'en fous, mais les couples me foutent la frousse. Est-ce jaloux? Suis-je jalouse? C'est pas que je m'en fous, mais les couples me foutent la frousse. La frousse. Oh non, oh non, je ne veux plus revenir en arrière. Et les gens, j'en ai rien.
Grand plaisir de recevoir sur notre plateau Lila, l'artiste donc Edda Bellabis, comme tu l'as dit, responsable du récent EP Malsainte et présente aujourd'hui à Bar en Trans pour transporter le Tiana ce soir. Ça va être trop bien. Bonsoir à toi.
Bonsoir.
Alors tu es géographiquement actuellement une voisine, puisque la Mayenne est l'une de tes terres de prédilection depuis récemment. Pas mal soutenue là-bas d'ailleurs. On t'a connue aussi dans le groupe Blemzia, une super formation qui promettait évasion, réflexion dans de magnifiques chansons. Et aujourd'hui c'est ce nom, Edda Bellabis, que ta créativité trouve tout son épanouissement. Un projet solo, un fond de sauce pop, quelques cuillères d'électro, surtout saupoudré de pas mal de chemins détournés, de tonalités aventureuses. Et dans ta bio, on lit un peu éloigné de la pop synthétique rebâchée ces dernières années. Alors j'ai deux questions pour toi là-dessus. Mm-hmm. C'est vrai qu'il est indiscutable qu'on entend dans ta musique une originalité, une recherche poussée, des structures qui s'autorisent aussi à sortir des sentiers battus de la pop. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une vraie volonté quand tu crées de chercher des choses qui frottent, des démarches un peu expérimentales, ou bien c'est une couleur musicale qui arrive tout naturellement?
Je pense que ça vient de ce que j'écoute, en fait. Je pense que du coup, j'ai tendance peut-être à écouter des trucs un peu chelous, et donc du coup, je fais des trucs un peu chelous. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas forcément une volonté. D'ailleurs, je pense que j'essayerai de faire autre chose, j'y arriverai pas. Enfin, non, mais c'est pas une volonté. C'est la volonté de faire cette musique parce que c'est ce que j'aime, quoi. Et après, j'aime aussi pouvoir m'étonner moi-même, donc je cherche beaucoup, quoi.
L'amour du quand le chelou arrive, ça t'excite plutôt que ça te bloque. Quoi,
bah ouais, c'est ça. Bah, mais c'est aussi mon rapport à quand j'écoute un album, quoi. Je vais accrocher à un album quand il y a quelque chose qui va m'étonner. Donc voilà.
Et alors justement, est-ce qu'il y a des choses qui t'étonnent moins quand on entend ça un peu rabâché ces dernières années? T'as la sensation que certaines pop sans âme ont été rabâchées ces derniers temps, comme si la pop filait un mauvais coton, partait parfois dans une direction pas souhaitable?
Non, moi je trouve pas que la pop elle file un mauvais coton. Je trouve qu'au contraire, en fait, là il y a plein de choses qui se passent en pop différentes. Ça s'ouvre et après ça peut pas plaire à tout le monde. Moi il y a plein de choses qui ne me plaisent pas, mais il y a aussi énormément de choses qui me plaisent, et je dirais pas du tout que c'était mieux avant, non, à ce niveau-là. D'autant qu'il y a de plus en plus de femmes aussi à faire de la pop, et ça amène autre chose aussi, je trouve, dans les couleurs, quoi, de cette musique. Donc non, c'était pas mieux avant. C'est bien ce qui se passe là.
Dans les couleurs, bah justement, j'avais mis entre parenthèses boumeuse ou pas boumeuse. Tu as réussi ton texte. Bravo à ton test. Bravo, tu n'es pas trop réac.
Non,
pour
je suis
l'instant.
Pas maxi réac, non.
Je voulais te parler d'une de tes chansons, par exemple Les Couples, qu'on pourrait, si tu permets, voir un peu comme une réécriture moderne de Tous les garçons, les filles de Françoise Hardy.
Ah oui, c'est intéressant, ok.
Ça fait partie un peu de ces morceaux pop pour les cœurs solitaires, tu vois, c'est des morceaux précieux qui redonnent un peu de couleur chatoyante aux vagues à l'âme. J'imagine que tu as des morceaux dans ton histoire d'auditrice de musique qui marquent, accompagnent, adoucissent comme ça. Pourquoi c'est important qu'ils existent, ces morceaux-là?
Ben parce qu'ils accompagnent nos vies et parce qu'ils accompagnent nos réflexions, et je pense qu'en enfin, en tout cas, moi, quand j'entends une musique qui va peut-être parler des fois de ce que je peux vivre, ben, je me sens moins seule à la vie. Enfin, je me sens moins seule à vivre cette chose, et de fait, je me sens moins isolée, en fait. Et je pense que c'est en ça que c'est important que la musique, elle n'ait pas qu'une seule thématique ou qu'une façon de lire une thématique. C'est en ça que c'est intéressant qu'on ait plein de discours différents autour des thématiques qui sont traitées par la musique, parce que ça permet à un maximum de personnes de s'y retrouver.
Et t'es heureux justement d'en offrir à ton tour, d'être cette voix qui nous susurre dans le casque ce souffle rassurant?
Bah ouais, si ça peut parler à des gens, ouais, je suis carrément heureuse.
Bah ça m'a bien parlé, je dois t'avouer, j'ai eu un grand plaisir à découvrir tout ça. J'aimerais bien te parler un peu de L'Oreille Heureuse, c'est un projet que tu montes avec Fabien Portejoie, des
Exactement.
Conférences qui consistent avec les plus jeunes oreilles à découvrir notre environnement sonore afin de comprendre comment s'en protéger, tout en tirant un maximum de plaisir. Louis, forcément, ce plaisir immense. Cette démarche m'a interpellé parce que tout le monde fait un peu d'action culturelle à sa manière en tant qu'artiste, mais là c'est assez original quand même. Tu peux m'expliquer comment cette idée a germé entre Fabien et toi, le constat de départ, la méthode pour en faire un spectacle à la fois divertissant, sensible et sensibilisant?
Ouais, alors je vais te décevoir parce qu'en fait c'était un appel à projet à la base, ce spectacle. C'est-à-dire qu'en fait il y a Octopus qui est basé en Occitanie, parce que moi avant d'arriver en Mayenne j'étais à Toulouse, et en fait qui faisait un appel à projet pour développer donc un spectacle autour des risques auditifs, mais pour les petits, ce qui existait déjà pour les collégiens avec le dispositif Peace and Love. Et voilà, et donc moi j'ai écrit une pièce de théâtre musicale un peu perchée où on est deux envoyés de l'oreille heureuse, et voilà, où on parle aux enfants des risques liés à l'audition, mais où on les fait aussi faire de la noise. On les pousse un peu à lâcher les élastiques. On s'en fout, c'est pas nous qui les récupérons après. Non, et du coup c'est plutôt cool, et c'était d'autant plus cool que en fait ce projet là on a commencé à le jouer un peu avant le premier confinement, en fait. Et pendant la période Covid, pendant longtemps, on n'a pas pu jouer, nous, les musiciens, dans les salles de concert, tout ça, mais on pouvait jouer dans les écoles grâce à ce projet-là. Du coup, c'était plutôt cool.
Tu ne m'as pas déçu du tout avec cette réponse. C'est absolument parfait. Dans le cadre de Bar en Trans, là, il y a un soutien entre Superformat, une scène du Mans, le VIP à Saint-Nazaire et le 6x4, donc à Laval, des régions où beaucoup de personnes s'investissent pour faire vivre la musique.
Ouais.
Je passe un clin d'œil à l'émission Transistor, à l'autre radio où, dans une autre vie, j'ai travaillé aussi. Tu as joué il y a une semaine pour justement leur émission.
Pour Transistor, ouais.
Yes. Mais bon, c'est vrai que c'est des régions où le dynamisme, la diversité des lieux de diffusion, des labels, des publics est peut-être moins vaste que des villes comme Rennes, Nantes, Tours ou a fortiori Paris. Qu'est-ce qu'il y a de différent à faire émerger un projet musical dans des contextes de villes modestes?
Ah bah, on est beaucoup plus entouré, je trouve. Mais c'est normal, parce qu'on est moins nombreux aussi, que après je vais pas faire une généralité, en fait je vais parler de Laval parce que je pense que ça se passe, enfin je pense que les réseaux sont tous différents et c'est pas forcément la taille de la ville qui fait le réseau, en fait. En tout cas pour Laval, ce qui est super chouette, c'est que t'es très rapidement moi je l'ai vécu comme j'ai été très rapidement identifiée et soutenue et à la hauteur des besoins que j'avais, c'est-à-dire qu'on m'a pas proposé des trucs complètement déconnants juste pour dire ok on est une SMAC et on accompagne sans écouter les besoins. Là moi je me suis vraiment sentie écoutée au niveau de mes besoins, et pas que par la SMAC de Laval d'ailleurs, par aussi le département, j'ai fait une demande dessus, enfin voilà, j'ai été vraiment aidée et ça aurait, bon j'aurais, enfin j'ai aussi été aidée par exemple quand j'étais à Toulouse, mais différemment, enfin c'est pas les raisons fonctionnent pas pareil quoi.
Mais alors justement, cette association entre ces trois salles-là prouve peut-être qu'il y a quand même des problématiques communes pour l'émergence de ces groupes-là, les faire sortir justement de Laval, du Mans, de Saint-Nazaire.
Complètement. Après, du coup, là, ça, moi, je pourrais pas trop en parler, dans le sens où vraiment, j'ai affaire aussi par 4 et par exemple, Superforma, moi, je l'ai rencontré ce soir aussi, finalement. Donc voilà. Après, peut-être que je vais sortir du territoire lavallois. Non, mais après, je sors, mais par d'autres biais, quoi. Ouais. Pas forcément par le biais du site par 4, du coup.
On te le souhaite, mais big up à la Mayenne, tout
gros
de même.
Big up la Mayenne.
Big up la Mayenne. Je voulais te poser une question, parce que moi, d'habitude, mon émission s'appelle Musicienne, et ça concerne plutôt la valorisation des femmes dans la musique, les questions d'injonction de genre et de ce genre de choses.
Trop bien.
Dans Blamezia, par exemple, c'était un duo original avec donc toi, au chant, à la flûte aussi, et avec Hélène Cuisson.
Alors moi, j'étais au saxophone.
Toi, j'étais au saxophone. Et donc, c'est devenu un sextet à un moment donné. Puis il y avait en tout cas une majorité de femmes. Vous vous qualifiez comme guinguette postmoderne. Et justement, qu'est-ce que ça apporte d'avoir, bon là, tu es en solo, mais de l'avoir de la mixité dans les formations où tu as joué, voire davantage de femmes. Et est-ce que la sororité, justement, c'est une valeur qui t'a portée dans ta carrière?
Bah énormément. Après, c'est drôle parce que tu as parlé de Blamezia, mais entre-temps, j'ai quand même eu un autre groupe où j'étais qu'avec des mecs après, où là, on faisait de la pop érotique. Et en fait, en effet, ça change tout à fait quelque chose. Enfin, ça change beaucoup de choses. Quand on était avec Blamezia, on avait beau être nombreuses, parce qu'à un moment donné, on s'est même retrouvé à 7, et ça roulait toujours niveau orga. Il y avait, en termes de charge mentale, en fait, il y a un espèce de truc qui se passe où tout le monde prend en charge ce qui est beaucoup plus difficile, je trouve, quand t'es dans des groupes avec des mecs, par exemple. Tu vas avoir quand même souvent ce truc de la personne qui fait la com, c'est la meuf, ce truc de... Enfin voilà, qui gère l'orga, c'est la meuf. Après, pareil, ça commence à s'ouvrir, ça commence à changer parce qu'il y a de plus en plus de discussions autour de ça. Et merci à des gens comme toi qui font des émissions justement là-dessus parce que c'est par ce biais-là, en fait, qu'à un moment donné, nos copains mecs des groupes de musique finissent par se sentir un peu con de jouer les machos et donc du coup, ils finissent par se remettre en question sur des trucs et c'est cool, quoi.
Je suis bien d'accord avec toi. Derrière ce que voit le public, les beaux disques écoutés au show, les concerts pleins de lumière et de musique forte, délicieuse, il y a aussi des galères, de la compétition, du travail, beaucoup de travail qui ne paye pas, toujours comme il le devrait. Mm-hmm. On a eu un exemple ici sur ce festival avec la rappeuse Illustre, qui a annulé sa participation au festival, qui a carrément arrêté la musique en fait.
Ouais, j'ai vu son post, parce que j'ai joué avec elle au festival des rappages il n'y a pas longtemps. Mm.
Elle dénonce là justement, elle dit « Je sais que ce poste sera lourd de conséquences, mais je ne peux et ne veux plus faire semblant. » Donc elle dénonce l'éloignement de ses proches, la pression pour être toujours plus performante, le manque de temps pour affronter le reste de ce que la vie nous réserve. Parce que quand même,
il y a une vie, ouais.
Bah ouais, enfin, on essaye. Et puis elle questionne la place de la création réelle, artistique, voilà, dans tout ça. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Tu as la sensation que faire de la musique aujourd'hui, ça relève du combat?
Bon, alors je pense que pour le coup, je vais faire ma boumeuse, mais en fait, la musique, ça relève du combat depuis toutes les générations. Parce que, enfin, je veux dire, tu demandes aux mecs qui faisaient du blues aux États-Unis dans les années 50, c'était pareil, en fait. Ça n'a jamais été évident de faire de la musique. C'est un choix. Tu décides de faire de la musique, tu décides que tu vas un peu galérer. Il y en a certains, non. Si tu nais dans une bonne famille qui a déjà du flouze, bah, c'est cool parce que tu pourrais être épaulé. Mais quand tu décides d'en faire alors que tu viens pas de ce genre de milieu, oui, évidemment, tu fais ce choix-là. Après, je partage le regard d'Illustre dans le sens où, en effet, la musique est une industrie et des fois, tu manques de temps. Moi, c'est pour ça que, par exemple, là, j'ai décidé je me casse en Espagne pendant 2 mois juste pour me dire que je vais avoir le temps, en fait, à un moment donné, de couper et de ne pas répondre aux injonctions de ce métier, en fait. Parce que quand on t'appelle, tu dis oui, c'est plus fort que toi. C'est un espèce de truc de... Et que, bah, en effet, pour créer bien, il faut du temps. Ça, par contre, je suis assez d'accord. Et qu'on en manque. Et que le truc d'être aussi tout le temps sur les réseaux, de devoir tout le temps montrer comment tu répètes, de devoir tout le temps sortir de la nouveauté, bah, en fait, fait que des fois, t'as pas ce temps de maturation dont t'as besoin, je pense, pour sortir des vraies, belles, bonnes choses dont tu es fier, en fait. Parce que c'est comme la bouffe, la musique, quoi. Ça, pour en faire quelque chose de bon, faut mettre le temps qu'il faut. Enfin, voilà.
Et toi, tu es investi aussi, j'ai cru voir l'année dernière, par exemple, dans le Gers, à Auch, plus exactement, tu avais joué dans le cadre d'une journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y avait aussi un projet pour sensibiliser au sort des femmes bangladaises. Utiliser ce que représente la musique à des fins militantes, c'est quelque chose qui te parle, toi ? Quelque chose que tu as envie de faire ?
Alors, moi, je ne me considère pas comme militante de base. Hein. Ceci dit, je suis femme et je suis musicienne, donc évidemment, la question me concerne. J'avais été invitée à venir jouer à Auch parce que pour cette journée des violences faites aux femmes parce que dans mon set il y a des choses qui parlent de ça en fait et que ma musique parle de ce qui me questionne. Après je me prétendrai jamais militante parce que je pense que militant pareil en fait c'est presque un métier aussi quoi. C'est énormément d'investissement, c'est être capable de mettre en place une rage que tu gardes constamment et qui est extrêmement encombrante. Enfin, du coup, non, je ne suis pas militante, mais par contre, j'ai en partage énormément d'idées défendues par des militantes.
L'idée, par exemple, de lutter contre les violences sexistes, pour plus d'égalité entre femmes et hommes, pour plus de femmes sur les scènes aussi. Est-ce qu'il y a des dispositifs, des leviers que tu as vus dans ton parcours qui te paraissent particulièrement utiles, pertinents ?
Utile, eh ben, je sais qu'il y a des choses qui se font, comme la Women Metronome Academy, tout ça. Il y a des mentorats qui se font. Je pense que oui, c'est utile parce que ça nous permet en tant que femmes de se rencontrer. Et je pense qu'en fait, nous, ce qui nous a manqué pendant longtemps dans ce milieu-là, c'est qu'en fait, on évoluait dans des milieux où on était entouré d'hommes et qu'on se sentait hyper isolé. Et que du coup, bah, on se sentait faible parce que c'est un peu comme si notre place, elle était tout le temps un petit peu. On était chanceuse d'avoir cette place-là au milieu de tous ces hommes, quoi. Du coup, je pense que ces dispositifs-là, ils aident. Après, je pense surtout que ce qui aide dans les dispositifs, c'est d'imposer la parité, en fait. Et c'est à un moment donné de. J'avais été invitée à un événement qui s'appelle RAFU, qui est organisé par la Fédélima, et où justement il y avait la question de. Maintenant, les SMAC, elles sont obligées normalement de programmer autant de femmes que d'hommes. Et il y avait un programmateur qui m'avait dit oui, mais est-ce que. Enfin, du coup, nous, clairement, on n'a pas forcément autant de visibilité sur des groupes de femmes, nanana. Et je sentais que ça le fatiguait. Et ce à quoi j'ai répondu, et je pense que ça, c'est vraiment important, c'est bah oui, mais en fait, nous, en tant que femmes, on a écouté énormément de groupes d'hommes. C'est votre boulot, en fait, de défricher autant de femmes que d'hommes, en fait. Parce qu'il y a énormément de projets de femmes. Enfin, moi, j'en écoute. J'ai toujours écouté énormément de projets de femmes et il y en a partout. Donc après, c'est ça qui nous aide surtout. C'est de pouvoir jouer autant que les hommes, en fait.
Ouais, et puis, ce qui est bien, si je peux me permettre, c'est que hier, on a eu le programmateur qui est venu ici. Et il nous a dit qu'il n'y avait pas spécialement de quota, mais qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Il y avait eu un 50-50 entre les femmes et les hommes sur les barres en trans, mais sans avoir de quota. Et je trouve ça que c'est quand même assez bien.
Ouais, c'est top.
Oui, je trouve que tu prends les pincettes quand tu dis les programmateurs qui disent on manque de visibilité. Sur moi, j'ai entendu des trucs comme c'est pas de ma faute, il n'y a pas de femmes qui font de la musique avec talent. Voilà, donc c'est bien que ça évolue. Un jour, on n'aura sûrement plus à se poser ce type de questions. Ouais. En tout cas, c'est que le combat sera.
Bah ouais, et puis après, c'est aussi parce que plus il y aura aussi de femmes, même dans les lieux de diffusion, plus je vois à Laval, c'est quand même de la bombe parce que la SMAC de Laval, ben, y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes dans l'équipe et ça change beaucoup la donne, je trouve. Donc, voilà.
Et tu disais aussi que le fait qu'il y ait plus de femmes dans la musique pop, notamment, ça apportait des couleurs différentes tout à l'heure, des thématiques aussi. C'est que tu peux me développer un peu ça, m'expliquer ce que tu ressens justement, ce que ça apporte de neuf d'avoir davantage de femmes que d'hommes dans l'expression pop.
Je sais pas, je trouve qu'il y a un esthétisme qui va ailleurs. Je pense à des projets comme, je sais pas moi, Bonnie Banane, Kate Envy, ce genre de projet, ça ose explorer des esthétiques un peu étranges ou et un peu salissantes pour la femme, mais pas salissantes comme on est habitué à le voir en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça démystifie aussi le côté de la chanteuse pop ou même jazz ou qu'importe en fait. Ça, ce côté très lisse de la chanteuse qui est pas censée avoir son mot à dire, tout ça. Là, en fait. Je ne saurais pas comment l'expliquer, en fait. Je trouve que oui, ça amène d'autres choses. Peut-être parce que c'est moins dans la performance aussi. On va être moins sur des solos, on va plus être sur des textures. Je ne saurais pas comment l'exprimer.
Je ne saurais pas très bien non plus, mais en tout cas, je vous encourage, vous, auditeurs, auditrices, à découvrir un peu, à enlever vos carcans là, et puis à écouter plein de trucs. D'ailleurs, est-ce que tu aurais une petite pépite, justement, de musicienne qui est encore un peu planquée et que tu aimerais nous conseiller
HSRS. Elle défonce.
Ok, ouais, allez.
Au moins c'est la grosse bombe.
C'est clair, définitif. Merci beaucoup, Eda Belavis, d'avoir été avec nous. Du coup, Lila. Et bah, voilà, on te souhaite de faire bouger le Tiana de malade. De toute façon, bah, ça va être blindé, c'est sûr, puisque c'est gratuit. Donc, dépêchez-vous d'y aller.
C'est cher, faut venir.
La salle est petite, ça va être chaud, chaud, chaud. Tu partageras l'affiche d'ailleurs avec Hayden Bestwood.
Exactement.
Mais d'ici là, on va écouter ce très efficace EP Malsainte. Tu as choisi un des morceaux et je vous propose de le découvrir ici sur Radio Syllab en direct des Bars en Transe.
Merci beaucoup.
Parfois je pédale dans le vide, ainsi je rate transports urbains et amoureux. Ainsi comme toujours me revient ce petit goût de rien ou de trompe, ce petit goût certain qui vous monte les larmes aux yeux. Femme du monde.